La parole de Dieu n'est pas simplement comme un souffle fragile, même elle ne l'est pas du tout. Elle est comme un roc, comme une épée à double tranchant. Et donc c'est cette parole solide que nous aimerions maintenant ouvrir et écouter. Et je vous invite à l'écouter, à l'ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Et nous lirons ensemble à partir du verset 11. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. « Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent ensemble à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison, il entendit la muse de la musique et des danses. Il appela de ses serviteurs, un de ses serviteurs, et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors, il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. » Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Jusqu'ici, notre lecture. Lorsqu'on vous sert le même repas régulièrement, un jour vous serez saturé, écœuré, et vous n'allez plus savourer son goût. Aussi bon soit-il le repas, vous n'allez plus l'apprécier à sa juste valeur. C'est le risque que nous encourons en abordant cette parabole bien connue, la parabole du fils prodigue. Seul Luc nous rapporte cette parabole. Une parabole riche en enseignements, et c'est pour cela qu'elle a d'ailleurs retenu l'attention de beaucoup de prédicateurs tout au long de l'histoire, et de beaucoup d'écrivains aussi. Beaucoup de messages, beaucoup d'écrits lui sont consacrés. Cette parabole est un joyeux. Elle se compose de deux parties clairement identifiables. La première est consacrée au fils cadet, et la deuxième au fils aîné. Et à l'intérieur de chacune de ces parties, est structurée d'une manière admirable sur le plan littéraire aussi. En plus d'être donc une parabole bien structurée, bien élaborée, elle est aussi très captivante. Elle exprime des vérités simples, des vérités robustes pour satisfaire le cœur humble, le cœur simple. N'importe qui, en écoutant, en entendant cette parabole, peut comprendre quelque chose. Mais cette parabole exprime aussi des vérités riches, profondes, pour relever les défis des intelligences théologiques et philosophiques les plus averties. Elle est considérée comme l'évangile à l'intérieur de l'évangile. Par cette parabole, Jésus exprime le cœur de son message. Il dit l'amour de Dieu pour les perdus. Pour les perdus, qu'ils soient perdus, noyés, voire noyés dans le péché comme le fils cadet, ou qu'ils soient perdus dans des pratiques religieuses serviles qui ne mènent nulle part comme le fils aîné. Cette parabole nous décrit d'une manière remarquable l'amour de Dieu pour les pécheurs. L'enseignement de cette parabole est souvent réduit à la repentance du fils prodigue. Et pourtant, il me semble qu'il y a bien d'autres enseignements forts qu'on peut tirer de cette histoire, de cette parabole. D'ailleurs, à mon sens, c'est une erreur d'appeler cette parabole la parabole du fils prodigue, car elle n'enseigne pas que cela. Elle n'enseigne pas d'abord cela. Le personnage principal de cette parabole, ce n'est pas le fils prodigue, et encore moins sa prodigalité. Le personnage central de cette parabole, c'est le père aimant. Un père qui exprime d'une manière admirable son amour, aussi bien pour le fils cadet, perdu dans le péché, que pour le fils aîné, perdu dans l'esclavage de la servitude. Je reviendrai, bien entendu, prochainement sur l'attitude de ces enfants, sur l'attitude de ces deux fils, leur cheminement spirituel, leur cheminement personnel. Mais ici, ce matin, je vous propose d'abord de nous arrêter sur ce personnage principal de la parabole, sur ce père admirable, sur son attitude vis-à-vis de ses enfants. Jésus commence sa parabole en disant « Un homme avait deux fils ». D'emblée, Jésus met devant ses auditeurs une scène inédite, anormale, dans un contexte culturel et religieux juif de l'époque. Un fils cadet qui vient demander à son père sa part d'héritage, alors que son père, celui-ci, est encore vivant et en bonne santé. Pour les auditeurs de Jésus, c'est quelque chose de choquant, car tous savent que l'attitude de ce fils cadet ne peut être interprétée autrement que par un désir de vouloir la mort de son père. En effet, l'héritage se partage après le décès des parents et non pas de leur vivant. Même lorsqu'un père accepte de partager son héritage entre ses fils, pour une raison ou une autre, l'héritage n'est perçu qu'après le décès du père. Tant que le père est encore en vie, ses biens lui appartiennent. Or, le fils cadet vient prendre sa part d'héritage du vivant de son père. C'est pour cela que son attitude ne peut être interprétée autrement que de considérer pour le fils cadet que le père est décédé pour lui. En agissant de cette manière, le fils cadet vient de transgresser le cinquième commandement de Dieu. Un commandement qui dit « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays où le Seigneur ton Dieu te donne ». Ainsi, le fils cadet n'a pas seulement offensé son père, mais aussi Dieu. Dieu qui a donné ce commandement. Dans l'Ancien Testament, il y a deux scènes où un père a partagé son héritage de sang vivant. La première scène, c'est avec Abraham, lorsqu'il a fait des donations au fils qu'il a eu avec une femme de second rang. C'est la femme, c'est Ketora, c'est dans Genèse 25. Mais le texte précise aussitôt que si Abraham avait fait cet héritage, avait donné cet héritage de sang vivant à ses fils, au fils de Ketora, c'est pour protéger le fils promis, pour protéger l'héritage du fils de la promesse, à savoir Isaac. Donc Genèse 25, le verset 6. Donc cette situation n'est pas une situation normale. C'est une situation qui n'est pas normale, qui ne peut pas être considérée comme façon d'agir. Il y a une deuxième situation où un père avait aussi partager son héritage de son vivant, et c'est le roi Ézéchias. Mais le roi Ézéchias, là aussi, c'est une situation particulière. Le roi Ézéchias reçoit la visite du prophète Isaïe pour lui donner des instructions, en lui disant, donne des instructions à ta maison, c'est-à-dire décide l'héritage que tu veux bien faire laisser à tes enfants, parce que ta mort est imminente. Et le roi Ézéchias s'humilie devant le Seigneur, prie, et Dieu lui accorde encore un sursis de 15 ans. Voilà donc les deux situations où on découvre, les seules à mon sens, où on découvre dans tout l'Ancien Testament où un père a donné son héritage de son vivant. On retrouve des cas exceptionnels, bien entendu. Un père qui partage son héritage de son vivant, on trouve des cas exceptionnels. En particulier, il y a un texte dans le Talmud babylonien qui stipule qu'un père qui a des enfants et qui se marie avec une deuxième femme, pour protéger l'héritage de ses enfants de premier mariage, donc il peut déjà, de son vivant, partager l'héritage, lui donner l'héritage déjà de son vivant, de peur que, à sa mort, sa femme prive le premier enfant, enfin les enfants de premier mariage, de l'héritage. Mais la règle générale, dans le contexte religieux juif, le père partage son héritage à la fin de sa vie, et c'est uniquement après son décès que l'héritage est perçu par les enfants. C'est le cas, par exemple, de Jacob, qui a d'abord partagé son héritage à la fin de sa vie entre ses 12 enfants, et par la suite est décédé. C'est le cas de David avec Salomon, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, donc, l'attitude de fils cadet est choquante. C'est une attitude qui peut être comprise comme un renoncement volontaire, conscient, à son père, et pas seulement, aussi à sa famille, aussi à son frère aîné. On s'attendrait à ce que le père réponde d'une manière forte, en faisant comprendre à ce fils que c'est toujours lui le maître à bord, que c'est toujours lui le maître de maison, qu'il est toujours vivant, qu'il est toujours en bonne santé, et que son fils n'a pas à lui demander cela. Au passage, il pourrait même lui donner une leçon de droit, de la loi, parce qu'aucune loi n'oblige les parents à donner leur héritage de leur vivant, bien au contraire. Mais la réaction du Père que Jésus présente ici dans cette parabole est tout autre. Le Père accède à la demande de son fils sans commentaire, mais certainement avec beaucoup de tristesse. Avec la tristesse parce qu'il vient de perdre son fils sur tous les plans. Sur le plan affectif, il n'y a pas de plus dur, à mon sens, que de voir son fils le renier, le considérer comme s'il n'existait pas. Et pourtant, c'est ce père qui lui a donné la vie, c'est ce père qui l'a nourri, qui l'a habillé et qui l'a éduqué. Le fils cadet reconnaît cela d'ailleurs d'une certaine manière, parce qu'il appelle son père « mon père, donne-moi ». Donc il reconnaît que c'est cet homme qui lui a donné la vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bon, bien sûr, c'est Dieu, mais par l'intermédiaire de cet homme lui a donné la vie. Puis lui dit, donne-moi. C'est une manière aussi de dire que ce fils reconnaît que son père est là aussi pour lui donner de pourvoir à ses besoins. Et c'est vers lui qu'il se tourne pour recevoir encore l'héritage. Et pourtant, le fils cadet veut accéder à son, soi-disant, à son autonomie. Il ne veut plus dépendre de son père, de ses soins, des soins de son père. Il veut gérer sa vie comme bon lui semble, comme un grand, on dirait dans notre langage courant. Seulement par cet acte, le fils cadet va créer une réelle blessure dans le cœur de son père, une véritable déchirure relationnelle. Le texte précise que le jeune homme, après tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il avait, il n'a rien laissé pour que son père nourrisse l'espoir d'un futur retour. Le comportement du fils cadet montre qu'il veut couper les ponts et les couper définitivement. Il veut y aller dans un pays lointain, nous dit le texte. Nous pourrions nous poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi le père a accédé à la demande de son fils? D'autant plus que celle-ci, cette demande, n'est pas conforme ni aux coutumes de l'époque et encore moins à la loi de Dieu. Il me semble que nous touchons ici à quelque chose d'étrange dans l'acte du Père. Quelque chose qui reste à mes yeux d'incompréhensible totalement. Il y a certains éléments qui peuvent nous aider à comprendre, mais je ne crois pas que nous pourrions le comprendre totalement. L'acceptation du Père peut s'expliquer en partie par l'amour qu'il éprouve envers son Fils. Un amour qui l'a conduit à respecter la liberté de son Fils, à respecter le choix de son Fils, même si, bien entendu, ce choix n'est pas justifié ni légalement, ni éthiquement. Certains disent que c'est le Père finalement qui a échoué dans l'affaire. C'est le Père qui a échoué dans sa manifestation et sa transmission de son amour. Il n'a pas su exprimer, il n'a pas su enseigner son amour, il n'a pas su exprimer son amour correctement pour qu'il soit reçu par ses fils. Puisque aussi bien le premier que le dernier vont tous les deux finalement ne pas comprendre l'amour de ce fameux Père. D'autres disent, le problème ce n'est pas dans l'éducation, ce n'est pas le Père qui est le problème, c'est l'amour même, c'est la notion d'amour qui pose problème. Parce qu'ils disent, si le Père laisse partir son fils cadet, c'est parce qu'il l'aime. Et l'amour ne peut pas contraindre sans cesser d'être amour. C'est-à-dire à chaque fois, au moment où on essaie de contraindre quelqu'un, l'amour n'est plus amour. En d'autres termes, l'amour rend le Père incapable de contraindre son fils à rester à la maison et à bénéficier de son amour, justement. Il me semble qu'il ne faut pas chercher midi à 14h et encore moins renverser les rôles. Le problème dans ce texte, ce n'est ni l'éducation ni l'amour du Père. Car en effet, la suite de l'histoire nous montre bien que le comportement du Père est un comportement irréprochable. À aucun moment, le texte biblique ne reproche quoi que ce soit à ce Père. Il ne lui reproche pas son manque d'éducation et encore moins son manque d'amour. Mais bien au contraire, il pointe du doigt le comportement des deux fils et non pas le manque d'amour ou le manque d'éducation du père. Quant à l'amour du père, c'est un amour qui respecte l'autre, la décision de l'autre. C'est un amour qui respecte la décision de l'autre, même si cette décision va à l'encontre de l'amour lui-même. C'est un amour qui libère, qui permet à l'autre d'être pleinement lui-même. L'amour du Père n'impose pas les choses, aussi bonnes et aussi justes soient-elles. Il n'écrase pas l'autre, il ne domine pas sur l'autre. En d'autres termes, c'est un amour qui n'est pas dictateur. Le Père estime avoir enseigné, manifesté l'amour nécessaire pour ses enfants. Une fois qu'ils sont majeurs, c'est à eux d'assumer pleinement leurs responsabilités. Voilà pourquoi le Père laisse le fils cadet partir sans le retenir du moins de force. Justement parce que le Père a donné à son fils toute l'éducation dont il avait besoin, il lui a manifesté tout l'amour dont il avait besoin, et de ce fait, il ne peut que respecter sa décision. Il l'accepte, même si cette décision de partir lui cause beaucoup de chagrin. Comment pouvons-nous recevoir cette première scène du Père avec son cadet? Dans un premier temps, cette scène me fait penser à celle de Genèse 3. Dieu a donné à l'être humain tout ce dont il avait besoin, rien ne lui manquait. Plus encore, Dieu l'associait à son projet. Dieu l'associait à son projet en l'établissant sur le jardin d'Éden et en lui demandant de le cultiver. L'être humain, l'homme, jouissait d'une manière parfaite de l'amour de Dieu. Et l'expression concrète de cet amour de Dieu, c'est le fait d'être créé en image de Dieu. Dieu a choisi de créer l'être humain en son image et à sa ressemblance. Voici l'une des expressions fortes de cet amour de Dieu envers l'être humain, envers Adam et Ève. L'homme jouissait de la création de Dieu, une création qualifiée à bien des reprises, bonne, très bonne. Le péché n'a pas encore fait son entrée dans le monde. Donc, la relation entre l'être humain et Dieu, en ce moment-là, était belle et harmonieuse. Et pourtant, l'être humain a voulu prendre son autonomie. Il voulait déterminer de sa propre science ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est mal. Il voulait avoir la connaissance du bien et du mal indépendamment de Dieu. Ce n'est pas à Dieu, en d'autres termes, ce n'est pas à Dieu de lui dire ce qui est bien et mal, mais c'est à lui. Il voulait la déterminer par ses propres capacités. Dieu aurait pu empêcher l'être humain de pécher, n'est-ce pas? Nous pourrions du moins passer des siècles et des siècles à poser cette question. Pourquoi Dieu n'a pas pu empêcher l'homme le premier à pécher? Il ne l'a pas empêché de pécher. Nous pourrions passer des siècles à spéculer sur cette question. Mais nous devons comprendre que Dieu a laissé un libre choix à Adam. Un libre choix parce qu'il aime justement. Parce qu'Adam a bénéficié de cet amour fort de Dieu sans aucun, entre guillemets, parasitage. C'est un amour parfait dont il était bénéficiaire. Dieu ne voulait pas des êtres humains robots. Il leur laisse toute la liberté de choix entre les deux commandements qu'il vient de lui donner. Il lui a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, premier commandement, un commandement positif. Le deuxième, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme le péché n'est pas encore entré en ce moment-là, Adam et Ève pouvaient choisir, lors de la tentation, d'obéir au commandement de Dieu, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de continuer à se nourrir de tous les arbres du jardin. Mais hélas, probablement Adam et Ève l'ont déjà fait avant la tentation, auparavant. Mais hélas, ce jour-là, l'être humain a voulu avoir son autonomie et devenir comme des dieux, comme Dieu. Il voulait avoir son autonomie de pensée. Il a voulu déterminer lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et cela l'a conduit non pas finalement à exercer sa liberté, à vivre dans la liberté, mais plutôt à devenir et pour toujours l'esclave du péché. De la même manière que Dieu a accepté le libre choix de l'être humain lors de la chute, que le Père dans notre parabole accepte aussi le choix de son fils cadet. Mais cela, non pas sans tristesse et sans douleur. Dans un second temps, cette histoire, cette scène entre le Père et le Fils me fait aussi penser à moi. Elle me fait penser à moi à chaque fois que je m'entêtais et je résistais à la parole de mon Père céleste. Hélas, nombreuses les fois où nous devenons insensibles à la voix de notre Père. Il nous arrive encore de préférer, bien souvent, entendre d'autres voix que celles de notre Père céleste. Pour entendre la voix du Père céleste, il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut lire sa parole. C'est là que sa voix s'exprime, se manifeste d'une manière audible, forte. S'arrêter devant lui aussi régulièrement que possible. Faire silence devant lui. L'écouter, prendre un temps pour l'écouter et être avec ce Père. C'est nous efforcer à ne laisser rien, ni notre agitation quotidienne, ni quoi d'autre, ni autre chose, ne priver de ce temps de communion avec notre Père céleste. C'est ça, si nous voulons entendre la voix de notre Père. En plus de nos résistances, de mes résistances à la voix du Père, ce sont aussi toutes ces fois où, d'une certaine manière, je cherche mon autonomie devant Dieu. Certes, je ne le fais pas consciemment et encore moins volontairement. Mais toutes ces décisions prises dans la précipitation, rapidement, parce qu'il faut répondre à tout tout de suite, nous sommes dans une société qui vit dans l'urgence, et il m'est arrivé de répondre très rapidement, sans prendre le temps même de consulter mon Père céleste, de voir ce qu'il en pense. Est-ce que agir de cette manière ne serait pas une façon de réclamer ou de vouloir, d'exprimer une certaine autonomie bien déguisée? Certes, je ne veux pas dire, surtout pas, que chaque matin il faudrait dire à Dieu de quel pied je vais me lever, est-ce que c'est de droite ou de gauche, et encore moins, quelle chaussure prendre. Ce n'est pas de cela, bien entendu. Notre connaissance de la parole de Dieu, notre connaissance de Dieu, ce que nous avons comme acquis, nous permet de prendre des décisions normalement et des décisions que nous savons sont sur la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Mais, considérez que nous avons toute la connaissance, même lorsque nous maîtrisons pleinement toutes les Écritures, et que nous n'avons plus besoin de prendre le temps de nous arrêter devant notre Père Céleste, il me semble là, il y a un danger, même, je crois même, c'est une forme d'autonomie qu'on réclame par cette attitude à notre Père. Rester à l'écoute de notre Père, c'est aussi, tout en étudiant sa parole, c'est aussi nous arrêter avant des décisions importantes, même dans la vie, le consulter au quotidien sur nos projets, sur ce qu'il en pense de ce que nous avons à faire. J'aimerais donc nous encourager à rester vigilants sur nous-mêmes, à ne pas trop nous surestimer, ni nous sous-estimer d'ailleurs, sur notre capacité d'écoute, de rester attentif à la voix de Dieu dans ce monde rempli d'agitation. J'aimerais nous encourager à rester vigilants sur nous-mêmes pour rester toujours à l'écoute du Père Céleste, à l'écoute de sa voix et à l'accueil de sa parole. En plus de respect pour son fils, le Père, dans notre parabole, exprime son amour d'une manière positive lorsque ce fils cadet revient, se repent, lorsque ce fils cadet revient vers son père, lorsqu'il reconnaît ses fautes et il revient vers son père, le fils reconnaît d'ailleurs son péché, non seulement vis-à-vis de Dieu, je parlais tout à l'heure du cinquième commandement, mais aussi non seulement vis-à-vis de son père, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Il dit vis-à-vis du ciel, j'ai péché aussi vis-à-vis du ciel. Une manière de dire vis-à-vis du Seigneur. Ceux qui sont stricts dans l'auditoire de Jésus étaient certainement scandalisés à l'idée que ce jeune homme, qui a pris tout son héritage et qui a tout dépensé, il débarque à nouveau, il revient à nouveau dans le village. Ceux qui étaient dans l'auditoire de Jésus stricts, c'est-à-dire les puritains, étaient inconcevables que ce jeune homme veuille revenir à la maison et au village. Car aux yeux de ces puritains, la seule chose attend ce fils cadet s'il revient. C'est la cérémonie publique où il sera renié officiellement, aussi bien par sa famille que par le village ou le clan. Et cette cérémonie existe en Israël de l'époque, et on l'appelle la cérémonie de la Kisissa. C'est une cérémonie où le clan ou le village se réunit. Il brise une jarre qui est remplie de blé rôti et de noix, pleine rue, et il pousse des cris. Il pousse des cris pour publier qu'un tel homme, un tel enfant, est définitivement séparé, désormais séparé, perdu, c'est-à-dire il n'appartient plus ni à la famille, ni au village. Voilà pour les auditeurs de Jésus, en tout cas pour ceux qui étaient stricts, ce qu'ils attendaient de la suite de l'histoire. Peut-être dans l'auditoire de Jésus, il pourrait y avoir aussi certains qui sont peut-être un peu moins stricts que ces puritains dont je viens de parler et qui se diraient, pourquoi pas, donnons-lui sa chance. On verra, mettons-le à l'épreuve pour voir si sa repentance est vraiment réelle ou pas. Dans tous les cas, le fils cadet s'attend à être reçu avec beaucoup, beaucoup d'hostilité. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a pris le temps pour préparer bien son discours, ce qu'il allait dire à son père. Il ne pouvait pas venir juste comme cela. Et là aussi, Jésus va surprendre tous ses auditeurs par l'attitude de ce fameux père, de ce père aimant. Dès qu'il voit son fils de loin, il fut rempli de compassion. Le fils cadet reste son fils malgré tout. Reste son fils malgré tout ce qu'il a pu faire contre lui-même, contre son père, contre Dieu. En voyant son fils, le père fut ému de compassion pour son fils. Cette compassion à l'égard de son fils, cette joie de le voir revenir, conduira ce père à un geste inattendu. Il court vers son fils. Or, un homme d'un certain âge ne court pas devant tout le monde. Un noble oriental avec sa robe flottante ne court jamais pour rien. Souvent, il ne court pas, sauf voilà, dans le cas exceptionnel. En courant de cette manière, le père risque tout simplement sa réputation, il risque aussi de se ridiculiser devant les villageois. Mais si le père court de cette manière, c'est aussi pour exprimer publiquement son accueil et son pardon à son fils. Ainsi, il lui évite la colère et la moquerie des villageois. Le père assume publiquement les conséquences de l'acte de son fils. Son fils devait faire face aux conséquences de son acte. Mais c'est le père qui prend les conséquences de l'acte de son fils. Le père se jette sur son cou, sur le cou de son fils, et l'embrasse, et certainement il le serre contre lui. C'est une description d'une réelle, d'une vraie, c'est une description d'une réelle et d'une vraie réconciliation entre le père et son fils. C'est un accueil sans réserve, c'est un accueil total que le père offre à son fils. Face à cet accueil, face à ce pardon, le fils est complètement bouleversé. Il découvre un amour qui va bien au-delà de son discours, le discours qu'il avait préparé auparavant pour le dire à son père. Face à la profondeur de l'amour de son père, le fils cadet prend enfin conscience combien ses actes de repentance étaient bien mesquins devant la grandeur, devant l'immensité de l'amour de son père. Le père ne s'arrête pas là, mais il va d'abord le rétablir aux yeux de tous, à commencer par ses serviteurs. Et il ordonne aux serviteurs d'apporter vite la plus belle robe, de lui mettre une bagoudoie et des sandales à ses pieds. De cette manière, le père rétablit le fils cadet dans son statut de fils dans la maison. Il ordonne aux serviteurs de servir le fils. C'est une manière de leur dire, désormais, il n'est plus mort, il n'est plus étranger, mais il est fils, il retrouve sa place. Ensuite, le père lui offre trois objets symboliques. La robe dont il est question ici est certainement la robe que le père lui-même portait lors des fêtes, lors des manifestations importantes, comme par exemple les fêtes au village. Et lorsque les villageois voient le fils cadet avec la robe du père, comprennent rapidement que le fils est totalement réintégré dans ses prérogatives filiales. Après les serviteurs, c'est donc devant tout le monde, devant tous les villageois, devant tous les villages, le village, que le fils cadet est rétabli dans son statut de fils. L'agneau rappelle le sceau qui signe le pouvoir, l'autorité. À peine arrivé, le fils retrouve totalement la confiance de son père. C'est incroyable. Le père le plus admirable qu'on puisse connaître sur cette terre prendra toujours quand même un peu de précaution et de ne pas lui remettre le pouvoir entre les mains de ce fils qui vient juste de débarquer. Les sandales à ses pieds, c'est pour le distinguer très clairement, parce que le père vient de donner la fête, il va faire la fête, et donc il invite les villageois. Et en lui donnant les sandales à ses pieds, c'est une manière de le distinguer, le fils, les membres de la maison, des autres, des serviteurs, parce qu'ils ne portaient pas des sandales, ils marchaient pieds nus, et des invités, parce que les invités se déchaussaient à l'entrée de la maison. Il n'y a que les membres de maison qui avaient le droit de garder leurs chaussures. Et là, le fils garde ses chaussures, garde ses sandales. C'est une manière de dire, le fils est rentré dans ses possessions. C'est un homme libre et il appartient à la maison. Oui, il est vraiment le fils au sens plein du terme. À la lumière de cette scène, comment ne pas penser à notre situation d'hommes et de femmes perdus, pécheurs, qui étions morts autrefois spirituellement et qui sont maintenant vivants grâce à l'amour de notre Père céleste manifesté en Jésus-Christ. Après nous être égarés à la suite d'Adam, Dieu notre Père est venu nous chercher en Jésus-Christ. La peine que nous devrions recevoir, c'est lui qui l'a reçue. tous nos actes de justice, de religiosité, de bonnes pratiques par lesquelles nous voudrions ou nous aurions voulu gagner Dieu apparaissent tout simplement mesquins, voire rien face à l'immensité de l'amour de notre Père céleste qui nous est offert en Jésus-Christ. Désormais, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des esclaves du péché, mais nous sommes des fils, des filles de Dieu. Et l'apôtre Paul résume si bien cette parole, si bien cette nouvelle position que nous avons grâce à Jésus-Christ en disant « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte ou dans la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est Romains chapitre 8, les versets 15 et 17. Quel privilège! Quel privilège pour nous qui sommes au bénéfice de la réconciliation, de rétablissement de notre statut de fils pour vivre et accomplir ce pourquoi nous sommes créés. J'aimerais dire à ceux, j'aimerais dire aussi que cette scène de réconciliation, de rétablissement est aussi offerte à ceux et celles qui veulent se tourner encore aujourd'hui vers ce Dieu en Jésus-Christ. Et nous serions heureux, si ce n'est pas encore fait, de vous accompagner dans cette démarche et de vous aider à bien recevoir, à bénéficier pleinement de cet amour du Père manifesté en Jésus. Face à l'incompréhension et à la colère du Fils aîné, le Père manifestera le même amour. Un amour qui laisse toujours perplexes les auditeurs de Jésus, car là aussi, avec le Fils aîné, le Père va s'humilier et ira le chercher. Le fils aîné ne veut pas entrer à la maison et participer aux festivités organisées à l'occasion du retour de son frère cadet. En plus de cela, il remet en question le jugement de son père. Le fait de ne pas rentrer déjà est un affront à son père. C'est faire affront au maître de maison. Lorsqu'il s'agit d'un invité simple de village qui ne vient pas, qui ne répond pas à l'invitation, c'est déjà un affront à plus forte raison lorsqu'il s'agit de son fils, de son propre fils. En plus de cela, le fils aîné remet en question le jugement de son père en l'accusant de manque de discernement et de jugement. Pire encore, il considère simplement que son père est injuste, parce que le père a tué le veau gras pour le fils cadet qui vient de rentrer de la débauche, alors que pour lui, il ne lui a même pas donné un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Par ce comportement, le fils aîné montre qu'il n'a rien compris au cœur de son père. Certes, il servait son père avec fidélité, mais ses multiples accusations montrent qu'il ne sait pas grand-chose aussi de son père. Il se comportait non en fils, mais en esclave, en serviteur, lui aussi. Le père aurait pu faire appel à la loi pour châtier son fils, le faire plier et au pire le traiter comme l'un de ses serviteurs. Mais là aussi, le père adopte une autre solution. Il appelle mon enfant. C'est une manière de l'inviter à ne plus rester dans une mentalité d'esclave et d'entrer pleinement dans une relation filiale avec lui. On peut noter au passage que le fils aîné n'appelle pas son père père. Il lui adresse directement la parole. Or, ici, son père, la première chose qu'il dit, comme pour le fils cadet, « Mon enfant », une manière de lui rappeler, il est fils, il n'est pas esclave, il n'est pas étranger, mais il est fils. Il arrive parfois que nous ayons la même attitude que le fils aîné. À force de travail et de service, nous oublions que nous sommes appelés avant tout à développer cette relation filiale avec notre Père Céleste. Nous pouvons, comme le fils aîné, laisser nos différentes préoccupations, bien utiles, souvent utiles, qu'il faut faire d'ailleurs. Nous pouvons les laisser nous faire oublier petit à petit qui nous sommes réellement à savoir des fils et des filles de notre Père céleste. J'aimerais nous encourager à ne rien laisser, à ne rien laisser nous priver de cette relation filiale et à ne pas nous comporter comme des serviteurs esclaves dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu. Ce serait dommage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir, bien au contraire, si nous voulons servir et servir fidèlement, c'est nous voulons servir et servir selon Dieu. Nous avons tout à gagner, à avoir, à développer et à laisser cette relation filiale s'enrichir jour après jour par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le Seigneur lui-même. Par le Père de notre parabole, Jésus nous présente le Père céleste, celui qui nous a aimés, qui nous a aimés jusqu'au bout. Que nous soyons des pécheurs à la manière de fils prodigue ou que nous soyons des esclaves à la manière du fils aîné, nous pouvons bénéficier de cet amour immense que le Père veut nous manifester. Autant chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de notre Père. Et c'est pourquoi nous pouvons, comme je viens de le lire dans l'Épître aux Romains, appeler Dieu notre Père, Abba Père. Laissons donc, laissons le Saint-Esprit nous conduire dans cette relation avec notre Père. Laissons la parole de Dieu nourrir cette relation. Laissons notre Seigneur Jésus-Christ nous révéler jour après jour la face de notre Père, l'image de notre Père, le cœur de notre Père. Pour ceux parmi nous ce matin qui ne sont pas encore au bénéfice de cet amour, je vous encourage à ne pas repartir avant de vous laisser diriger, orienter, conduire vers cet amour de notre Père céleste, vers cet amour de ce Dieu révélé en Jésus, le Père aimant. Que notre Père céleste continue à nous faire découvrir jour après jour son amour, ses grâces, par son Esprit et en Jésus-Christ. Amen.